ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, bienvenue à ces gens qui font la différence. Aujourd'hui, je reçois Caroline Soriol. Formée en génie industriel, en gestion et en sociologie, Caroline Soriol a choisi de suivre ses intérêts en passant par le monde corporatif au monde philanthropique. Elle est directrice générale des Petits Frères, avant ça s'appelait les Petits Frères des Pauvres, depuis maintenant 5 ans. Elle nous parle aujourd'hui de son parcours, mais surtout de la mission des Petits Frères. Bonjour Madame Soriol.
Bonjour.
Très, très, très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Une journée très importante parce qu'on se prépare pour les fêtes. Et ça, c'est vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotion pour votre organisme.
Certainement, pour tous les employés, mais aussi pour tous les bénévoles qui sont impliqués dans l'organisation de la fête de Noël dans toutes les régions du Québec. Il y a beaucoup d'effervescence ces jours-ci pour préparer chacun des petits détails des fêtes qui se produiront soit le 24 demain ou le 25, selon que nos aînés sont à domicile ou qu'ils puissent participer à des fêtes.
Alors, est-ce que vous étiez destiné à ça? Parce que quand on regarde en arrière, on voit que c'est un parcours tout à fait unique. On peut se poser la question, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous alliez dans ce monde-là? Vous étiez comment petite? Est-ce que vous étiez dans votre coin? Ou bien vous aviez envie d'aider les autres? Vous avez vécu où exactement?
Moi, je viens d'une famille très engagée socialement. Alors, pour moi, le don de soi ou la solidarité, ça faisait partie de la vie familiale. C'était pas une chose à part. Ça s'appelait pas du bénévolat. Ça faisait partie de notre quotidien. Pour moi, mon père allait travailler, mais le soir, on faisait d'autres choses. On accueillait les réfugiés. On s'occupait de toutes sortes de choses dans la maison ou dans notre communauté. Et pour moi, ça faisait partie de la vie normale, je dirais. Là, je me posais pas trop de questions à savoir est-ce que c'est à part, est-ce que c'est en plus, est-ce qu'on est généreux, pas du tout. Ça faisait partie de la façon d'être dans notre famille. Pour moi, quand j'étais petite, je pense que j'étais une enfant ordinaire. Je pense qu'une enfant, par contre, fort probablement assez sage parce que j'ai le sens du devoir très développé chez moi. C'est une valeur que mes parents ont développée très fortement, et même ma mère me disait, là, quand j'étais en maternelle, je demandais comment est-ce que je peux donner, comment est-ce que je peux servir, comment est-ce que je peux aider. C'était une préoccupation que j'avais, là, même étant toute petite.
En maternelle?
Oui, même ma mère me disait, où est-ce que ça va nous mener, cette histoire? Mais après ça, je dirais que c'est pas quelque chose que moi j'aurais pu nommer, c'est vraiment ma mère qui m'en a parlé des années après. Moi, j'ai fait mon parcours de vie. J'étais une enfant, j'étais bonne à l'école, j'avais des bonnes notes, j'étais sage, je m'impliquais dans tout ce qui pouvait être impliqué. J'étais souvent présidente de classe, j'ai fait le journal étudiant, la troupe de théâtre.
OK, donc ça commence comme ça, là. Ben, présidente de classe en général, là?
En général, en général. Quand il en fallait une, c'était moi.
OK, parfait. Alors, oui. Et puis ensuite, le journal?
Oui, le journal, à l'école secondaire, aussi des groupes de pastorale. Mes parents étaient des personnes avec une belle spiritualité, une spiritualité que je qualifierais d'éclairée. Ce sont des gens qui sont croyants et pratiquants, mais qui ont toujours cherché à comprendre la parole d'Évangile, cherché à faire de la théologie pour bien comprendre le message et le transformer en vie concrète, en vie pratique utiliser cette spiritualité-là pour les guider dans faire le bien, je dirais. Et ça m'a beaucoup inspirée aussi.
Alors, donc, une enfant qui n'a pas de problème à l'école, qui va très, très bien. Adolescente, vous étiez comment?
Je dirais comme ça aussi. Par contre, j'étais dans une école, j'allais dans une école et disons qu'il y avait des classes dans l'école. Il y a des classes, c'est sûr, académiques, là, mais il y avait aussi des cliques, des groupes. Et pendant la période d'adolescence, je dirais que j'étais pas dans les plus populaires et j'étais pas dans les moins populaires non plus, mais j'ai beaucoup vécu cette rupture-là entre les cliques. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert, je dirais, pendant l'adolescence. J'ai pas eu une adolescence malheureuse, mais j'ai vraiment porté sur moi cette marque j'aspirais à être comme des gens qui étaient plus populaires à cette époque et il y avait aussi une tristesse associée à d'autres qui étaient entièrement exclus. Je dirais que je circulais quand même assez bien d'une classe à l'autre, mais cette observation-là que je faisais, elle a été très marquante, je pense, dans la suite de mon cheminement. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce qui fait que à cause de la marque de nos souliers, du type de vêtements qu'on porte, du métier de nos parents, tout d'un coup, on est bien, pas bien. Les gens ont le droit de rire de nous ou pas, ou on a des amis ou pas d'amis. Mm-hmm. À cette époque-là, on n'appelait pas ça de l'intimidation. Puis, j'ai pas été victime d'intimidation non plus, mais je peux dire que j'étais témoin, en tout cas, de l'émergence de certains de ces phénomènes-là et ça soulevait chez moi une profond sentiment d'injustice et pas de révolte, vraiment. Ça fait pas tellement partie de mon caractère, mais plus une observation très critique de ce qui se passait. Et dans cette période-là, mes parents m'observaient vivre ces tiraillements que je pouvais avoir. Et mes parents aussi m'en ont parlé plus tard, en me disant, ben, on t'observait, puis on essayait de voir... est-ce qu'elle va craquer? Est-ce qu'elle va surmonter ça? Mais eux, ils m'enlignaient beaucoup sur... l'affirmation de soi, être qui on est, ne pas se soucier de toutes ces apparences-là, de faire son bout de chemin, de garder la tête haute, de se concentrer sur ce qu'on a à faire, de se concentrer sur ce qui est bien, de se concentrer sur ce qui est important, sur ce qui est généreux, sur ce qui est inclusif, et puis de ne pas se laisser atteindre par ces autres... ce bruit environnant, je dirais.
Donc c'était la spiritualité de vos parents, c'est complètement ça? C'était tout à fait ça. Vous m'avez dit, bon, ils étaient très spirituels et donc c'est ce qui... Ils vous regardaient un peu souffrir en se disant, ben voilà, mais en vous donnant aussi des outils pour passer au travers.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et je le sais aujourd'hui que la force qui m'habite, il y a une grande part de la force qui m'habite me vient de cette période-là, de toute la confiance aussi qu'ils ont eue, même quand j'étais plus petite, de l'amour qu'ils ont eu pour moi. Mais dans cette période-là, ces trébuchements, ces difficultés que j'ai vécues en voulant me faire accepter, en voulant être autre aussi, parce que quand on veut appartenir à des cliques qui ne sont pas nécessairement les nôtres, on essaie d'être différent, puis de toujours me ramener, mes parents me ramenaient à qui es-tu, pourquoi le fais-tu, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui est important dans la vie, est-ce que ces choses-là le sont vraiment, qu'est-ce que tu pourrais faire qui te permettrait, toi, d'exister en tant que tel. Ma mère disait que le but de la vie, c'est de devenir ce qu'on est. Et je pense que
c'est
ça...
C'est pas mal, ça.
Oui, je pense que
c'est... C'est à retenir, hein,
oui,
ça.
Oui, c'est vraiment à retenir.
Devenir ce qu'on est.
Devenir ce qu'on est, oui.
C'est beau.
Oui. Et c'est très empowering, comme on dirait en anglais. Là. C'est chercher en soi qui on est, chercher en soi qu'est-ce qui nous anime, puis de faire confiance à ça et de ne pas avoir peur de foncer par la suite.
Alors, l'université, comment ça se passe? Est-ce que vous savez ce que vous voulez, ce que vous êtes après cette période-là?
Ben pas du tout, non.
Non!
Alors, c'est sûr que c'est un long parcours hein, que de savoir qui on est. Puis je pense qu'à 16 ou 17 ans, on le sait pas vraiment. Mais ce que je savais, c'est que j'étais bonne à l'école. Et quand on est bonne à l'école, surtout bonne en sciences...
Ça donne un passeport pour faire pas mal de choses.
Certainement. Puis là, je me disais, bon, ben je suis bonne en sciences, je vais aller en sciences pures parce que ça permet de faire n'importe quoi. Quand j'ai eu terminé mes sciences pures, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Mais je me suis dit, bon, ben je vais aller à l'université en sciences parce que ça aussi, ça permet de faire un peu tout. Et à ce moment-là, je me souviens toutefois que ce qui m'animait, en tout cas, j'ai choisi le génie industriel, qui est le génie de ça vous impressionne?
Oui, vraiment.
Bon, c'est un métier comme un autre. Hein? Okay. Mais le génie industriel, c'est l'organisation de la production. Donc, ce qui m'animait, c'était... de prendre des rêves d'entrepreneurs, des gens qui ont eu une bonne idée, qui ont commencé une petite affaire, mais à un moment donné, ça devient trop gros pour eux aussi parce que c'est pas parce qu'on a la bonne idée ou la capacité d'inventer quelque chose qu'après ça, on a la capacité de le mettre en marché puis de le développer puis de le rendre en grande production. Et pour moi, le génie industriel, c'était une façon, c'était un outil un peu technique d'aider des gens à réaliser leurs rêves. Et donc, c'est ce qui m'a animée dans le programme, je dirais, de génie industriel. Mais dans le génie industriel, et après ça, quand j'ai travaillé, ce que j'ai beaucoup appris, c'est l'organisation, en fait. Et ça cadrait
beaucoup. C'est ça qui vous parlait plus, l'organisation?
Oui, c'est ça, l'organisation, la réorganisation, la qualité totale, l'amélioration continue, donc des processus en changement, comment on fait pour faire les choses mieux, plus simplement, que ça soit plus facile pour tout le monde. Et une préoccupation qui était la mienne, c'était la personne humaine qui est là-dedans, les individus qui travaillent dans une usine ou dans toute autre sorte d'entreprise, qui sont-ils? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Bon, on se comprend, on n'est pas là pour faire du voilier, là, on est là pour travailler ensemble. Mais si le travail peut être un endroit de création, peut être un endroit de réalisation personnelle, tant mieux. Puis moi, en tant qu'ingénieur industriel, je peux rendre ça possible aussi en écoutant les gens.
Mais il y a un côté de très humain là-dedans.
Certainement.
Là-dedans, j'ai l'impression que c'est ça qui vous parlait davantage.
Oui, mais c'est pour ça que je n'ai pas fait génie électrique ou génie physique. Voilà. Alors, avec le génie industriel, c'est le génie qui était qui est probablement encore aujourd'hui le plus proche de la gestion. Des fois, même, il y a de la gestion des opérations au HEC et il y a le génie industriel.
Alors, on revient, on va écouter une chanson de Noël, Tino Rossi. C'est l'amour et on va aller tout de suite après avec vos débuts au niveau du travail, comment ça se passe. Puis évidemment, après ça, on parle de l'organisme.
Merci.
Noël, c'est l'amour. Viens chanter, toi, mon frère. Noël, c'est l'amour, c'est un cœur éternel, du temps de ma mère, sa voix familière chantait douce et claire, un enfant est né, la voix de ma mère. Et les hommes en cortège vont chanter la joie d'aimer.
Noël, c'est l'amour.
Chantez-toi, mon frère, Noël, c'est l'amour, c'est un cœur éternel. Reviens-toi, mon frère, et vois la lumière, la
Nous sommes en compagnie de Caroline Soriol, elle est directrice de Petits Frères, j'ai envie de dire Petits Frères des Pauvres, mais vous allez m'expliquer que ça s'appelle plus comme ça.
Non, il y a 2 ans, dans le cadre de notre 50e anniversaire, on a changé de nom parce que, en fait, c'est un nom historique auquel on est bien attaché. Les petits frères, dans d'autres pays, s'appellent encore les petits frères des pauvres. Mais pour nous, on constatait que ça créait un obstacle à plusieurs égards. Mais le plus important de ces égards était que certaines personnes aînées qui auraient eu besoin de nous n'osaient pas nous appeler parce qu'ils ne se qualifiaient pas eux-mêmes de
c'est
pauvres.
C'est ça, ils se sentaient exclus dans le fond ou ils s'excluaient eux-mêmes?
Ils s'excluaient eux-mêmes, ils disaient « moi, je ne suis pas pauvre, donc je ne les appellerai pas ». Mais chez nous, et on en parlera plus longuement, mais chez nous, il n'y a pas de critères financiers.
C'est ça.
On accueille les personnes qui sont isolées. Mm-hmm. Notre fondateur, pour lui, faisait référence aux petits frères des pauvres en parlant de pauvreté de relation. Donc, une personne est... quand on est tout seul, on est vraiment le plus pauvre parmi les pauvres, pourrait-on
c'est
dire.
C'est bien dit.
Mais aujourd'hui, en 2014 ou en 2015, c'était même un obstacle à ce qu'on essayait d'accomplir. Mm. Alors, on a préféré le
raccourcir, voilà. Finalement, l'enlever. Alors, vous, par contre, vous n'arrêtez pas au niveau des études. Là, ça se passe très, très bien, la génie. Vous n'êtes pas encore tout à fait satisfaite parce que vous allez en sociologie. Comment ça se passe là, dans votre vie?
Oui, mais je pense qu'il y a eu presque 10 ans entre les deux études, je dirais, parce que
un doctorat que vous faites en sociologie.
Oui, plus tard, les études de doctorat, oui. Mais j'ai commencé à travailler comme ingénieure industrielle. J'ai travaillé dans une entreprise manufacturière qui s'appelle Fordia. Et à cette époque-là, mon patron était un homme extraordinaire. Je crois qu'il est toujours le président de cette entreprise qui a connu beaucoup de succès dans les 15-20 dernières années au Québec. Bravo! Je suis certaine que c'est encore un homme visionnaire, ambitieux, mais tellement humain, tellement chaleureux, tellement soucieux des personnes avec qui il travaillait. Et donc, j'ai eu la chance de tomber dans ce milieu-là comme premier emploi. Même dans cette ambiance privilégiée, ça faisait seulement quelques mois que je travaillais comme ingénieur industriel et mon constat, c'était « ça se peut pas que ça soit juste ça, la vie ». Alors, je trouvais que ça manquait de...
Ah oui, c'est intéressant.
Oui, je trouve...
Qu'est-ce qui vous manquait?
Bien, je dirais que là, j'étais un peu dans le métro-boulot-dodo, un peu. Donc, d'aller travailler, de travailler en usine, de travailler avec des gens. Mais pour moi, ça manquait de sens, ça manquait de... Même si on peut être généreux les uns envers les autres dans notre milieu de travail, ça manquait de grandeur, je dirais, ou de sens solidaire. Et dès les débuts, ça m'a préoccupée et j'ai commencé une longue réflexion personnelle qui m'a amenée... J'ai voulu être coopérante, j'ai voulu changer de métier parce que j'avais 22, 23 ans. Je me disais, je peux retourner aux études, je peux devenir médecin, psychologue, travailleuse sociale. Mais je suis qui je suis aussi, et ça a été mon constat à cette période-là. Je suis une gestionnaire, je suis bonne, je suis une bonne organisatrice, je suis une bonne dans la mécanique, là, pas pour réparer une auto, bien sûr, mais je suis une bonne organisatrice. C'est ça, mon coffre à outils à moi. Moi, je suis pas une intervenante. C'est pas mon coffre à outils. C'est pas mon karma ou ma personnalité à moi. Et comment est-ce qu'on peut réconcilier ce désir de servir, ce désir d'aider, ce désir de contribuer, de changer la vie des gens avec un coffre à outils qui n'est pas celui naturel de l'intervention du travailleur, du travail social? Et donc, j'ai continué ma carrière professionnelle dans des usines. J'ai travaillé dans plusieurs usines, tout en continuant à faire une recherche personnelle et spirituelle pour trouver quelle était ma voie. Dans cette recherche-là, à un moment, j'ai voulu m'aider à réfléchir à la société parce que je voulais aussi faire de la politique, je voulais être prof d'université. Il y avait un million de choses que j'aurais pu faire et je voulais sonder tous ces terrains-là. Et donc, je suis retournée aux études en sociologie pour m'aider à réfléchir à la société, pour avoir une approche un peu scientifique, de dire, bien, comprenez. Et c'est dans ce contexte-là que je me suis inscrite à des études en sociaux. Et là, j'ai fait une propédeutique, j'ai fait une maîtrise, et à un moment donné, j'ai voulu faire toute la scolarité de doctorat en sociologie. Et là, je m'y suis lancée à temps plein, sauf que j'ai choisi de ne pas terminer mon doctorat parce que... Non, je ne l'ai pas terminé. J'ai terminé toute la scolarité.
Mais vous avez votre maîtrise, cependant.
Oui, j'ai fait la maîtrise. Okay. Et puis, rendu là, je me suis dit, mais là, où est-ce que je m'en vais? Là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je veux être prof d'université? Non, pas du tout. Alors, pour moi, je voulais être dans la vie sociale. Je voulais être dans l'action. Je voulais aider. Et mes études m'avaient beaucoup aidé à réfléchir, à camper les choses, à former ma tête pour le faire. Mais c'est d'aller plus loin dans la scolarité de doctorat ne m'aurait pas aidé davantage. Puis j'avais très hâte de retomber dans des formes d'action. J'avais envie du travail d'équipe. J'avais envie de me mobiliser avec d'autres pour pouvoir changer les choses.
Alors, vous travaillez pour CGI, Rolls-Royce aussi?
Oui, c'est ça.
Alors, c'est incroyable quand même,
oui.
comme parcours. Et puis là, ça se dessine le YMCA. Là ça,
voilà.
là, ça va un peu plus dans ce que vous voulez faire et ce que vous êtes aujourd'hui.
Exactement. Alors, pendant que je travaillais chez Rolls-Royce et chez CGI, j'étais bénévole au YMCA. Je faisais partie du conseil d'administration, mais il y a eu un moment, une circonstance pendant mes études de doctorat où j'ai eu on m'a offert de la présidence du conseil d'administration des YMCA. Et pour moi, à regarder tout ce qui se passait dans ma vie, je trouvais que c'était vraiment le plus important. On s'entend, c'était pas un poste salarié. Là, j'étais pas PDG des Y, c'est bien Stéphane Vaillancourt qui occupe ses fonctions. Moi, j'étais présidente du conseil, mais avec lui, c'était un contexte de planification stratégique, de refonte de la gouvernance. Il y avait des grands défis au Y à ces égards-là. Et Stéphane et moi, on a fait un beau partenariat pendant quelques années. Et en faisant ça, donc je travaillais de près avec Stéphane Vaillancourt et puis je le regardais puis je l'enviais tellement. Je voulais tellement être calife à la place du calife. Alors, mais c'est sûr que...
Donc, quand même, vous l'observiez puis vous disiez, ça y est, moi, j'ai trouvé ma voie. Finalement.
Voilà, voilà. Mais j'aurais pas voulu son poste en tant que tel parce que c'est
mais
une
vous
grande...
Aidé.
Tout à fait.
À trouver votre voie.
Tout à fait, tout à fait. Ah. Stéphane est un bon ami encore aujourd'hui, dont je suis très proche. Et puis, c'est à ce moment-là que là, je dis, là, ça y est, je sais ce que je veux faire. Tous les morceaux du puzzle sont en
là.
Place. Mon coffre à outils déborde. Et je suis pleine d'énergie.
Donc, bon, on va écouter Henri Salvador, Vive le vent, et on revient justement avec le moment où vous devenez directrice et vous trouvez vraiment votre voie. Vous l'avez trouvée, là.
Oui.
D'accord.
Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans les mains. Et tout là-haut, le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an, et bonne année, grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, aux mille bougies, quand chantent vers le ciel les cloches de la nuit. Vive le vent, l'hiver. Qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d'hier. Et le vieux monsieur descend vers le village. C'est l'heure où tout est sage et l'ombre dans chaque maison. Il flotte un air de fête, partout la table est prête et on entend la même chanson. Oh, vive le vent, d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année, grand-mère. Oh, vive le vent, l'hiver. Boule de neige et jour de l'an et
Nous sommes en compagnie de Caroline Soriol, elle est directrice générale des Petits Frères. Alors, les diplômes, vous, vous en avez? C'est fou, là. Vous avez l'université, c'est énormément de diplômes, mais ça ne suffit pas. Vous trouvez votre voie, vous allez travailler au Y, vous avez quelqu'un qui vous inspire. Et comment arrivent les Petits Frères?
Mais à ce moment-là, donc j'avais le coffre à outils bien rempli de diplômes, mais aussi de toutes sortes d'expériences parce que j'avais été bénévole dans différents organismes, dont le YMCA. Et ce que j'avais envie à ce moment-là, c'était de réconcilier toutes mes vies parallèles parce que ça fait beaucoup d'heures dans une semaine, tout ça, hein, de travailler à temps plein et de faire toutes ces choses-là. Et je souhaitais réconcilier ma vie et enfin pouvoir offrir ma vie pour servir une cause, servir des gens. Et à ce moment-là, les aînés, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'aînés qui vivent une exclusion terrible. Mm-hmm. Et j'ai voulu m'y consacrer, en fait. Et à ce moment-là, les Petits Frères recherchaient une directrice ou un directeur général. Et on s'est rencontrés. Puis disons que mon désir d'aider a rejoint le désir des Petits Frères à ce moment-là de changer un peu sa façon d'être et de se déployer au Québec.
Quel était, à ce moment-là, même avant votre rencontre, votre rapport avec les aînés?
Il y a plusieurs aînés dans ma vie. Ma mère, en fait, j'ai plusieurs grands-parents, j'en avais quatre comme bien des gens, mais ma mère a été élevée partiellement par des grands-tantes, donc il y avait aussi ces tantes-là qui sont pour moi comme des grands-mères, qui aujourd'hui sont décédées pour la plupart. Il me reste une de ces grands-tantes. Alors, il y a toujours eu des aînés dans ma vie, pas au quotidien par contre, parce qu'ils habitent dans la région de Québec. Donc, on allait les visiter quelques fois par année, mais on passait 3-4 jours chaque fois. Et pour moi, ce sont des aînés qui ont été signifiants dans ma vie, avec qui j'ai eu des relations amicales, affectueuses évidemment, familiales. Je dirais que pour moi, les aînés sont importants parce qu'ils sont, hein, ils sont importants parce qu'ils existent, ils sont importants parce qu'ils nous ont précédés, ils sont importants parce qu'ils font partie de nous. Mm-hmm. Le volet, l'aspect de transcendance est absolument essentiel.
Ils sont notre richesse.
Oui, ils sont notre richesse, mm-hmm. Puis on ne peut pas exister sans ce qui nous a préexisté. Et donc, et de les considérer, de les découvrir, de se les approprier en quelque sorte, de les faire partie de nous et de vivre en communauté avec eux, pour moi, m'apparaît non seulement essentiel et requis, mais comme vous le dites, une richesse. Mmh.
On revient tout de suite après la pause et on continue avec votre voix que vous avez trouvée.
Des gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Caroline Soriol, vous trouvez votre niche avec les Petits Frères, vous vous sentez bien. Alors, vous faites cette entrevue et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a tout de suite, il y a une connexion qui se fait avec vous et l'organisme?
Ah ben ça, c'est un peu cocasse en fait parce que à ce moment-là, la personne qui avait fait l'entrevue avec moi, elle l'avait fait, je crois, par courtoisie parce que mon CV lui avait été acheminé par une personne qui me référait. Et ma candidature n'a pas été retenue.
Non.
Parce que, oui, c'est ça.
C'est pas vrai.
Oui, oui, oui. Alors, ça a commencé comme ça. Oh! Et ma candidature n'a pas été retenue parce que vous pouvez imaginer le CV que j'avais, là, donc ingénieur industriel, qui travaille en gestion.
Ils se sont dit, on ne peut pas la payer. On ne peut pas
non,
la payer.
Non, non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'elle connaît? Qu'est-ce qu'elle connaît d'un organisme?
Ouais, un parcours atypique,
effectivement. Oui, c'est ça. Puis de dire, ben, est-ce qu'on peut vraiment être directrice générale en arrivant comme ça, directement du privé. Donc, mon CV n'avait pas été retenu. Puis j'étais aussi un petit peu plus jeune qu'aujourd'hui. Alors, on ne m'avait pas prise au sérieux, je crois.
Oh! Mais alors, vous êtes battue, puisque vous
avez... Ben, ça ressemble à ça, oui.
Ben, alors... c'est bien, ça, faut le dire. Alors, il y a plein de gens qui nous écoutent en ce moment et qui sont peut-être dans la même situation.
Oui,
alors, dites-nous, vous êtes battue.
Oui, alors, ben, j'ai insisté et puis j'ai rappelé la personne qui m'avait référé. J'ai dit, aïe, 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 ça n'a pas été du tout, là, parce que je le sentais bien. Et puis, donc, il y a eu quelques démarches qui se sont produites. Et là, j'avais une deuxième chance de, de, de me faire valoir, en quelque sorte. Mais là, cette fois-là, c'était devant un jury parce qu'il y avait 5 personnes qui étaient là pour faire l'entrevue, dont la première personne qui n'avait pas retenu ma candidature. Mais là, je me suis bien préparée. Hein. Alors, s'il y a un conseil que je peux donner aux auditeurs, là, c'est que pour faire une entrevue, il ne faut pas penser qu'on sait ce qu'on a à dire. Il faut aussi se pratiquer à le dire, surtout quand on est dans un changement de carrière, parce qu'on est habitué de parler un certain langage. Et là, tout d'un coup, on prend notre langage habituel, on le transforme autrement pour parler dans un autre milieu et aussi pour se faire valoir. Il faut être efficace dans la façon qu'on dit les choses. Et les gens, ils n'ont pas envie de comprendre tous les méandres de notre pensée, mais bien d'avoir confiance qu'on saura faire ce qu'ils veulent qu'on fasse. Alors, donc, c'est un autre contexte. Mais je m'étais bien préparée. J'avais eu un coach d'entrevue, un mentor, justement, qui m'avait aidée. Et je suis allée à cette entrevue et je me souviens, je me sentais tellement bien. Je me sentais en possession de mes moyens. Et là, oui, il y a une magie qui a opéré. Je me souviens que je racontais des blagues. J'étais des blagues pertinentes quand même. Mais j'étais totalement en contrôle de moi-même et de ce que j'avais à offrir.
Bien, quoi.
Je savais que j'étais la bonne personne pour faire le travail. Ma job à moi, c'était de les convaincre. Mais j'en étais certaine. Et quand je suis sortie de l'entrevue, la personne m'a raccompagnée. La même personne, et elle m'a dit « T'étais vraiment prête cette fois-ci ». Donc, même elle, j'avais réussi à la subjuguer. Et ça n'a pas pris de temps après là, qu'on m'a confirmé que j'avais le poste.
Alors, les petits frères, on sait que ça a été inauguré dans les années 40 en France, 1962 ici, au Québec, pour tout simplement qu'on respecte, qu'on brise la solitude de chez les aînés, parce qu'il faut le dire, les chiffres sont énormes à Montréal. 40% des gens vivent dans une solitude, mais vraiment très profonde. Alors, votre organisme, c'est ça. C'est vous donner un amour à ces gens-là. Vous donner tout simplement une caresse, un sourire et des repas. Vous faites des activités. Souvent, on pense à Noël. Noël, c'est la pire période parce qu'on parle toujours de la famille à Noël. Et les gens qui n'ont pas de famille, ben, ils sont tout seuls, ils sont tristes hein, devant leur dinde. Vous leur donnez de l'espoir.
Effectivement. Quand on accueille, imaginez que vous êtes seul, que les gens que vous avez aimés sont décédés ou vivent à l'étranger ou vous avez une sœur, mais comme elle ne vous entend plus, elle a un problème d'audition, vous ne pouvez plus lui parler au téléphone. Donc, il y a toutes sortes de situations qui font qu'une personne peut être seule, surtout dans son grand âge. Et vous êtes seul, vous n'avez plus personne à qui parler, soit que vous habitez dans votre petit 4,5 ou vous habitez dans une résidence, même dans une résidence collective, vous savez, les contacts, la durée moyenne des contacts, c'est 2 minutes. Hein? Les gens rentrent dans votre chambre, ils ressortent, ils vous donnent un biscuit, ils ressortent, ils viennent vous aider, ils ressortent. Donc, il n'y a personne de significatif dans votre vie. Et tout d'un coup, les petits frères arrivent et parce que vous les avez appelés ou parce que quelqu'un vous a mis en contact avec eux. Et on vous assure que désormais, vous ne serez plus jamais seul. Que désormais, il y aura quelqu'un qui pensera à vous, quelqu'un qui se souciera de vous, qui veillera sur vous aussi pour vous accompagner dans les moments plus difficiles, mais aussi pour partager des beaux moments de joie, parce que ce n'est pas parce que vous avez 82 ans que vous n'avez plus droit à la joie, que vous n'avez plus droit de rêver non plus. Et quand les petits frères entrent dans la vie de quelqu'un, je crois que ce qui le change le plus la vie, c'est cette assurance qu'on sera là pour toujours. On ne sera pas là tous les jours, il faut bien se le dire. On ne sera pas là tous les jours, on ne sera pas là dans tous les instants. Mais on va veiller sur vous de manière constante et ça, aussi longtemps que vous vivrez. Puis on espère que ce sera le plus longtemps possible et qu'on pourra partager ces moments-là avec vous. Alors ça change la vie des gens.
Alors les femmes, il faut le dire, bon c'est bien, on vit plus longtemps, hein? c'est bien au niveau des statistiques, mais c'est triste aussi parce que à 85 ans, la moitié des femmes vivent seules et ça c'est triste de voir aussi qu'elles n'ont même pas un téléphone, Elles ont même pas de belles paroles. On lui demande même pas, on leur demande même pas comment elles vont et tout ça, mais c'est une réalité. Votre organisme accueille les gens à partir de 75 ans et vous desservez dans 13 villes. Ça, c'est important de le dire. C'est pas juste à Montréal. Vous avez des petits, comme on dit, des petits frères, un petit peu partout au Québec.
Oui, et partout, partout dans toutes nos équipes, on a la même essence dans notre accompagnement, cet engagement pour toute la vie. Ce souci qu'on porte à chacune des personnes avec son parcours, son histoire de vie. Nous, on ne juge pas, on ne tente pas de juger de pourquoi est-ce que la personne est toute seule aujourd'hui. On la prend telle qu'elle est au moment où elle se joint au petit frère. Et en fonction de qui elle est, de quelles sont ses aspirations, on va tenter de dégayer sa vie. Et à ce moment-là, on va la visiter, on va la jumeler avec un bénévole parce que ce qu'on veut, c'est qu'il crée une réelle relation d'amitié. Pas seulement des visites ponctuelles, puis à chaque fois, on recommence notre conversation parce que c'est un nouveau bénévole, mais plutôt qu'il y a un bénévole qui dit, moi, cette dame, je m'engage, je vais aller la voir, je vais la connaître, je vais l'aimer, et ce, sur une longue période. Donc, on a certains jumelages qui durent depuis 2 ans, 5 ans, même quelques-uns, 15 ans, qui peuvent durer très, très, très longtemps. Et là, on passe d'une relation qui peut être formelle au début. Bien sûr, on s'est engagé, on ne se connaît pas trop, donc on se voit. Mais à un moment donné, on tombe dans la complicité, dans le partage, dans les fous rires, dans la spontanéité aussi. Et souvent, on dépasse les cadres que l'organisme va fixer parce que la dame, on l'aime tellement qu'on veut l'amener chez nous, puis on va l'inviter chez nous à Noël. Bien, c'est pas obligé de faire ça, mais souvent, cette spontanéité-là s'installe et pour l'aîné d'appartenir à une nouvelle famille, bien, ça compte beaucoup.
Est-ce que c'est difficile pour les aînés de prendre le téléphone puis de dire, voilà, je me sens seule, merci de m'aider?
Je crois que c'est un passage difficile, effectivement. Pour certains, ça peut sembler être un constat d'échec. C'est vraiment un passage, c'est pas agréable de se le dire à soi-même, de faire ce constat-là et encore moins de le communiquer à quelqu'un d'autre. Mais moi, je peux vous assurer, Mme Stanké, mais tous les auditeurs qui nous écoutent et à quiconque, je le répéterai, chez les petits frères, nous, notre spécialité, c'est d'accueillir des personnes qui sont seules. Et nous savons que ce n'est pas parce que les gens ont mauvais caractère qu'ils sont seuls. Nous savons que ce n'est pas parce qu'ils ont fait des choses...
Ce n'est pas des tatis comme... Daniel, là.
C'est ça. Nous savons qu'à partir de 75 ans, 80 ans, il y a des choses qui vous arrivent dans la vie. Oui. Votre mobilité réduit, il y a des gens qui vous quittent, vous déménagez, vous êtes déraciné de votre quartier. Et là, vous arrivez à 88 ans dans un nouveau CHSLD. Est-ce qu'on devrait s'attendre à ce que tout d'un coup, vous connaissiez tout le monde et que vous ayez plein d'amis sur votre étage. Ça ne se passe pas comme ça, la vie. Puis nous, chez les petits frères, nous savons qu'il y a toutes sortes de situations qui mènent à la solitude, mais que ça n'a pas d'importance. Chaque personne compte. Chaque personne est importante. Chaque personne mérite d'être connue. Et pour nous, c'est un privilège que d'accueillir chacun des aînés qui, grâce à nous, sera plus seul. Mais nous, on est tellement enrichis de pouvoir les accueillir, de les découvrir, de vivre toutes ces joies avec eux par la suite.
Est-ce qu'on n'est pas dans une société où, justement, on met de côté l'intergénérationnel? On pense toujours, on donne toujours les Chinois comme exemple, mais ils vivent sous le même toit. Ou encore, les Haïtiens sont très, très familles. Jamais les aînés vont aller dans un centre ou quoi que ce soit. Nous, on est un petit peu, à tel âge, on catégorise un peu les gens.
Oui, mais je pense qu'il y a plusieurs phénomènes sociaux à l'œuvre aussi. Il y a une rapide transformation des relations entre les générations parce que la situation qu'on vit présentement, c'est une situation qu'on n'a jamais vécue. On n'est pas dans une continuité par rapport à, par exemple, dans les années même 70 où les aînés vivaient jusqu'à 72, 75 ans. Ils avaient eu 4 enfants. Donc
on vit longtemps. Là.
On vit jusqu'à 95 ans. Les aînés aussi, certains, quand ils ont pris leur retraite, ils ont voulu parcourir le monde, avoir
c'est
des loisirs.
Différent.
Donc, les aînés qu'on retrouve aujourd'hui ne sont pas les mêmes aînés non plus qu'on avait, qui avaient 72 ans, puis qui venaient juste d'arrêter de travailler. On n'a plus des familles de 4 enfants non plus. Alors, dans une famille de 4 enfants, il y a peut-être un enfant qui s'occupait plus du parent, mais ça ne veut pas dire que les 3 autres s'en occupaient nécessairement beaucoup non plus. Alors, aujourd'hui, on est vraiment dans un phénomène nouveau. Il y a plus d'aînés en nombre pur. ils vivent ça plus longtemps.
Hein? Ça s'en va, les statistiques,
c'est ça.
Là, c'est,
ils vivent plus longtemps. Alors, on a toute une cohorte d'aînés, une cohorte de personnes de 90 ans. Avant, les 90 ans, c'était des exceptions. Aujourd'hui, c'est une cohorte complète de gens qui ont 90 ans.
Je pense que c'est pas mal, c'est élevé quand même.
On parle de... Bien, il y a beaucoup de chiffres sur les 65 ans, là, mais on parle de 15 % je crois,
c'est
là,
ça,
des
hein?
gens.
Hein? Les 90 ans.
Oui.
Alors, on fait une pause musicale. Claire Pelletier, Le premier Noël, et on revient tout de suite après. Caroline Soriol, donc vous êtes là, vous êtes comme des anges, et vous-même vous occupez des aînés comme ça avec votre organisme, des petits frères. Je dis des anges parce que la solitude, briser l'isolement social Là, il y a également la maltraitance aussi au niveau des aînés. Et là, vous donnez vraiment de l'espoir, de l'amour. Vous formez finalement des familles qui n'étaient pas des familles avec des bénévoles. Donc, parlez-nous un petit peu du fonctionnement. Comment ça fonctionne? Moi, j'aurais 75 ans. Je vous appelle parce que je me mets vraiment, sinon 73 ans, vous ne m'acceptez pas. Donc,
voilà.
J'ai 75 ans, ça ne va pas. Je me sens seule. Noël arrive dans quelques heures. Je prends le téléphone. Qu'est-ce que vous m'offrez et qu'est-ce que vous me dites?
Bien, si vous m'appelez aujourd'hui, je pense qu'on va peut-être se reparler dans quelques jours parce que là, on est vraiment dans l'effervescence.
Okay, alors, on va dire que je vous ai appelé une semaine avant.
Voilà. Alors, la première des choses, c'est qu'on va discuter avec vous au téléphone pour bien comprendre en quelques instants si effectivement votre situation correspond à l'organisme Les Petits Frères. Et si on pense que oui, probablement, il y a une personne qui va se déplacer, qui va aller à votre domicile pour vous rencontrer et mieux vous connaître, mieux comprendre qui vous êtes, ce que vous vivez, ce que vous attendez aussi des Petits Frères. Et nous vous présenterons l'organisme et qu'est-ce que nous on fait, qu'est-ce qu'on peut vous offrir. Ensuite, si vous pensez que c'est effectivement ce dont vous avez besoin, c'est ce que vous cherchez, à ce moment-là, on vous accueille dans la famille si effectivement là, vous répondez aux critères. Et à partir de là, il y a une intervenante qui va s'occuper de vous, qui va aussi vous connaître et qui va vous jumeler avec un bénévole. Mm-hmm. Alors, on a 1300 bénévoles répartis un peu partout au Québec. Ces bénévoles, ce sont des gens qui sont intéressés aussi par la cause des aînés, mais aussi par les aînés un à un aussi, qui ont envie de les rencontrer. Oui. Et donc, parmi nos bénévoles, il y a certains qui attendent certains aînés pour pouvoir se jumeler parce qu'on essaie de trouver une proximité géographique. Idéalement, si vous habitez dans le même quartier, c'est préférable. Si vous avez des affinités communes aussi. Et à ce moment-là, on va mettre en place un jumelage où ce bénévole-là va vous visiter de manière régulière là, et sur une longue durée.
Alors, est-ce qu'il peut aller faire des courses? Est-ce qu'il peut aller au cinéma? Si c'est une personne qui aime le musée, est-ce qu'il fait tout ce bénévole? Il fait toutes ses sorties avec la personne qui a téléphoné, par exemple?
Oui. Au départ, c'est important que les deux personnes apprennent à se connaître. D'accord. Donc, on n'est pas tellement dans la sortie au début, surtout là, pour bien prendre le temps de créer cette connivence. Oui. Ensuite, ça va selon les désirs des deux. En fait, ensemble, ils vont décider s'ils ont envie de sortir ou pas envie de sortir. Ça dépend du bénévole et ça dépend de l'aîné. Mais il faut aussi réaliser que parmi nos aînés, il y en a près de 40% qui ne sortent que très peu. Ouais. Alors, il y a beaucoup d'aînés qui sont à domicile ou dans des CHSLD ou dans d'autres types de résidences et qui ne sont plus en mesure de sortir. Mmh. Et nous, ce sont les aînés qu'on va jumeler en priorité.
Mais tout à fait, parce que ça, c'est comme au secours, là. Il y a très peu de contact humain. Là.
Voilà, une personne, par exemple, vous, Mme Stanky, vous avez 75 ans et vous avez votre auto, vous faites encore des sorties, mais en fait, vous êtes seule dans la vie puis vous avez envie de joindre les Petits Frères, on va vous accueillir. Et puis là, on a des activités, on a des sorties aussi. Il y a notre maison de vacances où vous pouvez aller passer une semaine de vacances.
C'est ça, j'ai vu, vous aviez des camps de vacances extraordinaires, ça.
Oui, parce que
c'est dur de partir tout seul, déjà à n'importe quel âge, là, mais d'être avec quelqu'un en vacances, c'est extraordinaire. Vous avez des camps de vacances.
Oui, on a deux maisons, une sur le bord du lac des Deux-Montagnes, qui est une grande maison. Et on a aussi un chalet sur le lac Saint-Joseph dans la région de Québec, là, qui est gracieuseté de M. Lou Garneau, là, qui est notre bienfaiteur.
Parce que vous avez beaucoup, vous avez Béatrice, vous avez des marraines qui sont extraordinaires. Béatrice Picard qui est là, Louis Garneau, donc tous ces gens-là
contribuent et permettent de faire connaître la cause et d'amasser des sous pour ce qui est de M. Garneau. Alors, les vieux amis peuvent aller aux maisons de vacances pour passer du temps accompagné de bénévoles. Ils partent en groupe. Et chez les Petits Frères, ce qui est important pour nous, c'est aussi de faire durer le plaisir. Mm-hmm. Alors, il y a certains plaisirs qui peuvent durer une journée ou cinq journées, mais nous, on aime ça quand ça dure des mois. Donc, quand on part en vacances, bien, il y a une invitation à partir en vacances. Il faut préparer ses bagages. On a hâte de partir. Ensuite, on va en vacances. Et quand on revient des vacances, un mois après, il y a un souper retrouvaille de vacances.
Oh, très bien.
Donc, tous ceux qui sont allés en vacances ensemble se retrouvent. Et souvent, il y a un album souvenir, il y a une projection de photos. Donc,
Il y a tout ça. Il y a l'avant, l'après, la préparation du voyage. Et puis aussi, on partage les souvenirs. On va aller directement parce que ça se prépare Noël, comment ça se... et c'est ce moment-là, peu importe l'âge, le plus dur quand on est tout seul. Vous, il y a à travers le pays des organisations. Je pense ici, je pense que je vais le dire, mesdames, messieurs, c'est pas mon genre de faire de la publicité, mais je pense que le Sheraton qui est partenaire avec vous à Montréal.
Oui, si je ne me trompe pas, ça fait 29 ans
voilà,
que le Sheraton...
c'est pour ça que je le dis le nom.
Quand même, hein, 29 voilà, ans voilà. qu'ils nous reçoivent.
On leur envoie des fleurs.
400 personnes à l'hôtel Sheraton. On est reçus comme des rois de manière complètement gratuite. Et c'est le personnel de l'hôtel et leur famille qui font le service cette journée-là de manière bénévole.
Wow.
Alors, c'est vraiment très généreux de leur part et pour nous, c'est un grand moment de l'année. Alors, au Sheraton de Montréal, mais il y a aussi à d'autres endroits un peu partout au Québec, il y aura de telles fêtes.
Alors là, vous les appelez, il y a les vieux amis qui sont là. Hein? Vous les appelez comme ça parce que c'est pas moi, je pense que c'est ça. Vous dites les vieux amis
oui.
sont jumelés.
Oui,
hein?
oui.
C'est votre appellation.
Oui, nous, on les appelle des vieux amis, mais voilà. je peux vous dire, on met un V majuscule et un A majuscule
voilà.
quand même. Alors, c'est un titre très honorifique.
Tout à fait.
Et c'est très affectueux. Et comme je vous dirait Mme Béatrice Picard, dans le mot vieux, il y a le mot vie. Alors,
tout à fait.
Donc, nos vieux amis sont bien en vie et nous, c'est parce qu'on les aime qu'on les appelle ainsi. On respecte cet âge qu'ils ont accumulé
mm-hmm.
et ben, ce sont nos amis parce qu'on les a bien à cœur. Alors, lors des grandes fêtes, donc tous les vieux amis qui sont en mesure de sortir, qui sont capables de le faire, vont recevoir le matin la visite d'un bénévole qui va venir les chercher à domicile parce que nos vieux amis, on ne les laisse pas voyager tout seuls. Le transport, le voyage, ça fait partie de la fête.
Exact.
Donc, on va les chercher à domicile. S'il y en a qui ont du transport adapté aussi, là, on a toute une séquence de transport adapté qui viendront amener les gens à l'hôtel Sheraton.
Oui, parce qu'il faut le dire, parce que les personnes à mobilité réduite, ils sont seuls et vous faites un travail magnifique avec eux. Ils font partie de cette belle fête-là. Ils sont toujours là. Aux petits frères, vous occupez merveilleusement d'eux.
Oui, en fait, nous, on s'attache à la personne, peu importe d'où elle arrive et ce qui lui arrivera aussi. Alors, une personne comme vous, Mme Stanquet, qui est arrivée à 75 ans,
exactement.
Qui avait votre auto, vous faites vous déplacer, mais peut-être que quand vous aurez 82, vos jambes seront un peu fatiguées.
Voilà, plus faible.
Et peut-être que votre vue aura diminué, votre oui aura diminué, mais nous, on va vous accompagner dans ces étapes de la vie. Si vous déménagez, on va vous tenir la main, on va vous aider à trier vos souvenirs. On va vous aider à vous installer dans votre nouvel endroit. Ensuite, votre situation pourra aussi, même parfois, malheureusement, continuer à détériorer. On a près de 20 % de nos vieux amis qui sont atteints de troubles cognitifs, la maladie d'Alzheimer ou d'autres. Et nous, on croit que chaque personne compte et chaque personne est en vie jusqu'au dernier souffle. Et donc, notre accompagnement, il s'étend à toutes les personnes selon leur parcours. Et,
Leur condition aussi.
Peu importe.
Que ce soit social, physique.
Ça. Alors, le 25, là, il y a cette fête au Sheraton, mais en même temps qu'il y a la fête au Sheraton où il y aura 400 personnes, il y a une petite fête sur la rue Garnier pour justement des vieux amis qui ont des troubles cognitifs ou la maladie d'Alzheimer et qui, pour eux, là, une grande fête à 400
non,
là, dans un hôtel,
trop,
ça ne va pas. Mais il y a une petite fête pour des gens sur la rue Garnier. Et il y a tout le 24 aussi qui sont les visites à domicile, le repas partagé pour toutes les personnes qui ne peuvent pas participer aux fêtes.
Comme ça, ils ne vont pas être toutes seules.
Voilà.
Merveilleux. Alors, on fait une petite pause. Alors, nous sommes déjà rendus au jeu questionnaire. Quelles sont vos personnes que vous admirez?
Je crois que j'en ai fait mention à plusieurs reprises au cours de l'entrevue. Mes parents ont été des personnes vraiment emblématiques dans ma vie. Ils m'ont montré la voie, même au-delà de ce qu'ils peuvent envisager eux-mêmes. Mais c'est certain qu'ils sont une inspiration quotidienne pour moi.
Vos mentors?
Il y en a plusieurs, mais tout à l'heure, j'ai mentionné Stéphane Vaillancourt qui était au YMCA et qui m'a beaucoup soutenue dans mon passage d'une vie à une autre parce que lui-même l'avait fait auparavant. Et sur une autre touche, je dirais aussi que j'admire beaucoup Daniel Germain et sans qu'il le sache, c'est une inspiration pour moi et un mentor en tant que directeur ou figure emblématique d'une grande organisation au Québec. Je m'en inspire beaucoup.
Vos livres qui vous ont inspiré?
En fait, je dirais toute l'œuvre de Dany Laferrière. Je trouve que Monsieur Laferrière, pardon, a une langue charmante, fantasmagorique, merveilleuse, évidemment très bien écrite, mais qui coule comme une musique et qui nous fait envisager le monde avec des yeux, un regard différent.
Vos villes que vous préférez?
Mais moi, je ne suis pas tellement une fille de ville. Alors, moi j'aime les sommets de montagne.
Alors,
j'aime le bout du monde.
Donnez-nous le nom de vos sommets.
Je peux vous dire, Étretat, ça, ce n'est pas un sommet, mais c'est un bout du monde. C'est une ville, là, mais sur le bord de la mer ou quand on envisage l'Atlantique. Là, moi, il faut que je sois sur la plage et que je regarde l'Atlantique ou le sommet du mont Kai Kop où on regarde toutes les Laurentides qui s'étalent devant nous. Voilà les endroits où je préfère me retrouver.
Merci beaucoup. Alors, ça se prépare. C'est le cas de le dire. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes et pour tous vos petits frères et tout l'amour que vous donnez. Un grand, grand merci. Alors, voilà.
Merci de m'avoir reçu.
Merci, Madame Soriol. Et un grand merci à mon équipe, Rémi Hermoso, le réalisateur de l'émission, à la recherche, Christiane Campagna. Et aux médias sociaux, Claudia Benoît. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Prenez soin de vous. Bye bye.